Bon, allez, on se calme un peu. Je vous demande du sérieux, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Je vous ai promis un quart d'heure plus léger, mais avant cela, penchons-nous un peu sur cette noble discipline qu'est l'histoire et sur la date du jour. C'est le 25 février dans l'histoire, une chronique proposée et imposée à Camille.
La radio n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Bonjour.
Donc, le 25 février dans l'histoire. Le 25 février, 56e jour du calendrier grégorien, 7e jour du mois de Ventose dans le calendrier républicain français, en vigueur de 1792 à 1806, officiellement dénommé jour de la Laterne, oui. Nom scientifique Rhamnus alaternus, arbrisseau oui. du genre Rhamnus, de la famille des Rhamnacées, oui. caractéristique des garrigues méditerranéennes, dont le fruit, proche de la prune...
Oui, mais bon Camille, de l'histoire, voilà.
Non, mais faut me comprendre aussi. Le 25 février dans l'histoire, mais c'est quoi cette trouvaille? Déjà, de l'histoire, hein. Excusez-moi, pardon.
Ah mais dis donc mais... Oh.
Non, non, mais
les historiens sont majoritaires ici.
Je suis d'accord.
Je tiens à préciser que pour une émission qui se targue d'informer le fidèle auditeur de ce qui se passe en ce moment, intituler une chronique le 25 février dans l'histoire, c'est déjà un peu se foutre du monde. Mais bon, puisque je vous sens un peu belliqueux, hein,
oui.
on
oui.
va commencer.
Oui, bah oui, ça vaudrait mieux. Hein.
Donc,
s'il te plaît.
Justement, je vous propose un peu d'histoire bataille. Alors, si vous écoutiez le en ce moment 2429, je vous dirai comment Jeanne d'Arc vient de rencontrer à Chinon un Charles VII suffisamment désespéré pour confier le sort de son royaume à une pucelle à la coupe douteuse et à l'esprit parcouru d'interférences auditives. Et oui, Jeanne d'Arc captait la radio. Entrevue fructueuse pour la pucelle donc, qui parvient à convaincre le petit roi de Bourges, comme on l'appelait, de lui confier des troupes pour aller livrer bataille et selon la formule consacrée, pour bouter l'anglais hors de France. Avec le succès que l'on sait.
Wait a minute, something's happening. Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror.
Autre temps, autre mœurs et autre combat.
Jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men.
Est-ce que vous entendez?
Strikes them head on.
Vous entendez? Oui. Nous sommes le 25 février 1942 et les aliens attaquent Los Angeles. Eh oui. Pour information, les États-Unis viennent juste d'entrer dans le conflit, oui, oui. en pleine Seconde Guerre mondiale, et le pays, encore sous le choc de Pearl Harbor, vit dans la crainte permanente d'une attaque japonaise sur la côte ouest. Soudain, dans la nuit du 24 au 25 février, la marine, avertie de l'arrivée imminente d'une offensive japonaise, détecte un objet non identifié dans le ciel. C'est la panique. Pompeusement, on l'appelle la bataille de Los Angeles, quand en réalité, l'armée américaine s'est contentée de balancer plus de 1400 obus en quelques heures, frénétiquement, sur une ombre. En fin de compte, aucune trace du mystérieux objet volant qui a échappé à une si lourde offensive et n'était, selon toute vraisemblance, pas un avion japonais. Alors, depuis les thèses ufologiques, qui concernent l'existence des ovnis, hein, comme vous le savez maintenant, oui. s'en donne, vous l'imaginez, à cœur joie. Bon, je dois avouer que l'extrait sonore provenait, lui, de la version radiophonique de La Guerre des Mondes, d'Orson Welles, diffusée, elle, dès 1938 par CBS. Et si la légende veut que ce reportage fictif ait provoqué un vent de panique dans tout le pays, la bataille de Los Angeles a, elle, fait des victimes bien réelles. 3 civils, tout de même, furent tués par des retombées d'obus, et 3 autres moururent d'une crise cardiaque due au stress provoqué par la bataille.
Oui, bah, puisqu'on parle bataille et fiction... Hein.
Oui, cette date semble propice aux batailles un peu fantoches et burlesques. Nous sommes désormais à Paris. Où a lieu le 25 février 1830 au théâtre de la Comédie Française la première de Hernani, pièce du jeune Victor Hugo, dont, et donc c'est le début de la célèbre bataille d'Hernani, acte fondateur mythique du romantisme français. Les forces en présence. À ma droite, les classiques, partisans d'une hiérarchisation stricte des genres théâtraux, académiciens en perruque et garants du canon, très remontés contre cette provocation hugolienne qui prétend briser les règles de la tragédie classique. À ma gauche, les flamboyants. Mené par le jeune et charismatique Victor Hugo, fringant, sonore, voyant, Théophile Gautier, que la légende revêt d'un fort discret gilet rouge, ou encore Dumas, et son décoiffé de jeunes romantiques ténébreux. Ça claque, ça siffle, ça crie, ça chahute.
Oh mais c'est un scandale.
Le buzz version 19e siècle. Il faut dire que Victor n'y va pas de main morte. Abandon fracassant des règles de l'unité de temps et de lieu, de l'unité d'action, révolution métrique qui brise l'alexandrin classique, non pas en deux, à l'hémistiche comme il se doit, mais en trois, créant ainsi l'alexandrin romantique, mélange des registres. La pièce comporte ainsi des passages parmi les plus flamboyants de la littérature française, hein, comme ce passage, acte 1, scène 2, que je vais déclamer pour vous. J'ai vu dans sa belle âme tant d'amour, de bonté, de tendres sentiments, que madame, à coup sûr, en a pour deux amants. Une merveille de romantisme. Ou encore, ce morceau de bravoure en alexandrin, s'il vous plaît. Quand aurez-vous fini de conter votre histoire, Croyez-vous donc qu'on soit à l'aise dans cette armoire ?
Oui, bon, merci, merci Camille. Je crois qu'on va ici conclure ton histoire. Non, allez, merci Camille.